With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Hello, hello, bonjour à tous. Une seconde, je reviens. Eh oui, c'est les aléas du direct. Regardez celui qui avait oublié son micro. Celui qui avait oublié son micro alors qu'il croyait être très à l'heure et qu'il avait même mis le truc en avant. Ça bougeait pas et hop là, voilà. Excuse, j'étais un petit peu ailleurs visiblement parce que j'avais oublié donc de placer le micro devant moi. J'espère que vous allez bien et désolé pour ce départ un petit peu étrange. Il est 18h pile, bon bah il y aura un petit blanc sur le replay, ce sera particulier. Désolé pour tous ceux qui étaient là en avance, un peu là, désolé la pub pour la madame. Bonsoir à tous, bonsoir à Bip Bop Noon, bonsoir à Megro, à Lolo, à tout le monde. On a retrouvé Charlie, et oui, désolé j'étais dans le décor, c'est au moment où... où j'ai appuyé sur passer le direct que j'ai fait. Il n'y a pas le micro. Bonjour à tous. Excusez-moi pour la distraction. Bonsoir à Tofi, à Lornilus, à Philippe de Deca que je remercie en effet. Bonjour à Pascal, à JP, aux autres. Et je vois qu'il y a, je vois moi-même sur le lecteur qu'il y a une pub avant, ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'enlever la monétisation juste après. Oui, Degan, je confirme que c'est mon anniversaire, en effet. Je vous remercie, je remercie Philippe et tous les autres qui l'ont souhaité. Oui, le maillot de Brady, je ne crains plus rien, en effet. Bonjour à Jérôme, bonjour à Degan, merci à Degan, du coup. Oui, merci à tous, du coup, pour les souhaits. En effet, je vieillis aujourd'hui. Merci à Néo, à Ruizard, à Lolo, à JP, à Fabrice. Et oui, du coup, je fête mon anniversaire à l'antenne cette année. C'est un peu inédit pour moi, mais oui. Hop, je remets. Du coup, j'ai perdu mon fil. Je sais plus où j'en suis parce que j'oublie le micro. On me souhaite. J'aimerais bien avoir 30 ans, Degan, mais c'était il y a déjà 5 ans pour être précis. Les anniversaires proches de Noël. Merci à tous, ça fait évidemment plaisir. Ouais, peut-être pas 50 non plus, Gigino, un peu en dessous, il me reste encore quelques années avant 50, mais on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Je suis plus près de 50 que de 20. Ah ouais, merde. Ah bah non, je suis pile entre les deux. Ouais, c'est ça. Donc non, j'ai pas de chapeau de fête, ouais, c'est ça. Un peu plus que 34, Bibop, non, un tout petit peu plus. Je suis pile poil entre 20 et 50. C'est ça, si je dis pas de bêtises. 29 ans, j'aimerais bien, mais l'anniversaire du site, je sais pas exactement, c'était en 2007, ça a commencé. Je crois 6 septembre, si je dis pas de bêtises. Ça a dû lancer au... Non, pas 45, 35, c'est Jean-Baptiste qui est bon. Sans les lunettes... Ouais, c'est Kinan Allen, il y a de ça. Donc, bonjour à tous. Je vais pas épiloguer. Commence pas à dire que t'es vieux, j'aurai ton âge l'an prochain. Bah oui, mais on rajeunit pas. Hein. Bonjour à tous, bienvenue pour le fauteuil semaine 15. Je n'ai même pas vérifié du coup parce que j'ai tout programmé en automatique maintenant. Donc j'espère que normalement, je vérifie encore une dernière fois. Voilà, c'est bien en ligne sur le site, c'est bon et ça doit être en ligne sur les réseaux sociaux normalement, puisque tout a été programmé. J'espère donc que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que je vais réussir à retrouver la bonne fenêtre où il y a le chat, voilà. Donc, c'était le 163e épisode, en effet. Bon, là, ça va, il n'était pas trop bon celui-là. Mais puis, il faut meubler, je suis tout seul maintenant, alors bon. Donc, le fauteuil, semaine 15, on est à 5 jours de Noël. Le thème de la semaine, c'est les cadeaux de Noël pour les joueurs NFL, on va en parler évidemment. Avant tout ça, le Tipeee, je vous remets le lien dans le chat. Vous pouvez nous soutenir évidemment sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Encore un peu plus cette année en période de Covid évidemment. Thomas qui dit il y a encore les crépitements. Alors attendez, tu es le seul à le signaler. Alors quelques-uns, mais ça m'a l'air très léger. Visiblement, c'est pas sur toutes les paroles. Donc j'espère que... Ah, il me semblait que ça crépite un peu, mais c'est supportable. Ça me semble bon. Bon, en tout cas, dites-moi hein, si ça va, mais a priori, ça avait l'air d'être clean. Là, ça doit être un petit peu... ça grésille, un tantinet et pas très fort. Ça passe mieux que la dernière fois. Bon, a priori, le micro marche, il est bien relié. Bon, a priori, c'est bon. On va être pas trop mal. Donc... ça doit être les connexions hein, aussi qui peuvent varier, ça c'est pas de mon ressort. Bon, en tout cas, bonjour à tous, je le disais, on va parler des cadeaux de Noël, on va faire vos questions, on va parler aussi ce qui s'est passé des matchs de jeudi et samedi, puisqu'il y a des matchs toute la semaine, et on va commencer, comme d'habitude, avec un petit concours. Le concours, je vous remets l'adresse, n'oubliez pas, c'est concours@genactu. Il y a des gens qu'on voit sur une autre adresse, donc non, et dans le chat, ça marche pas. Tenez-vous prêts parce que là, ça se joue dans les secondes à chaque fois sur les gains des trucs. Donc, un ballon Kipsta à gagner parce qu'on en fait gagner sur le site et sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, on aime bien en réserver plein à nos auditeurs. Et dans le fauteuil, on sait que c'est des auditeurs qui regardent parce que des fois, sur les réseaux sociaux, bon, il y a plein de monde. Donc, un ballon Kipsta à gagner. On va faire taille adulte cette semaine parce que je crois qu'il me reste pas mal de taille adulte. Donc, taille adulte cette semaine. Ouais, parce que c'est de la réponse... Comment dire ? Ouais, c'est du truc d'adulte, là. C'est la saison des cadeaux. Donc, je me suis dit, on va trouver une question sur les interceptions. Je rappelle, réponse concours@genactu.com. La question porte donc sur les interceptions. Vous devez envoyer la réponse, votre nom, prénom et adresse complète. Et je pense que je tirerai au sort, peut-être pendant dans les vainqueurs, plutôt que prendre le premier cette semaine. Donc... Concours à Touch en Actu, la question, quel est le joueur qui a lancé, ça va aller très vite, hein, quel est le joueur qui a lancé le plus d'interceptions dans l'histoire de la NFL ? C'est plutôt simple, c'est plutôt simple. Vos questions, n'hésitez pas à commencer, ça n'est pas James Winston, Flo07, puisque là on parle de toute l'histoire de la NFL, celui qui a lancé le plus dans toute l'histoire. Donc il faut avoir joué beaucoup de matchs, attention, on part en carrière, hein. Donc c'est pas Paul Kroos d'Egan, j'ai pas dit celui qui a réussi le plus d'interceptions, j'ai dit celui qui en a lancé le plus d'interceptions, donc on cherche un quarterback. Paul Kroos c'est pour les interceptions, ce n'est pas Peyton Manning. Je vous laisse chercher, c'est pas très très compliqué à trouver, et je vous laisse chercher, vous envoyez la réponse à concours@genactu.com avec nom, prénom et adresse complète. Oui, Théophane, réponse envoyée, j'ai vu que Théophane il fait partie de ceux qu'on voit très très vite toutes les semaines. Parce que quand je faisais les dernières semaines là au plus rapide, ça se jouait à la seconde. Il y avait des tonnes de mails à 18h07, 06. Bon, on va commencer un petit peu avec les débriefs parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a eu 3 matchs. Celui du jeudi opposait les Chargers aux Raiders et ça s'est terminé avec une victoire des Chargers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être d'ailleurs même commencer par ceux du samedi parce que c'est un plus frais et deux un peu plus intéressant. Donc on est chaud, oui, dit Théophane. Donc, on va commencer avec le Bills Broncos. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis je les prendrai aussi à la volée dans la foulée des débriefs. Donc, le Bills Broncos, ça a fait 48-19 pour les Bills. Les Bills qui sont chauds au bon moment. C'est un signe de progression, hein, ça aussi, quand même, pour une équipe qui s'est très, très bien construite ces dernières années. qui a très très bien progressé au fur et à mesure du règne entre guillemets de Sean McDermott. Donc ça, c'est vraiment encore une fois du positif et des choses qui avancent pour cette équipe de Buffalo. Je ne sais pas s'il sera coach de l'année, McDermott, comme le suppose Tarras Velder. Il y a beaucoup de bons candidats. Hein. C'est jamais facile de trouver le coach de l'année. Après, voilà, s'ils sont troisième, parce qu'ils pourront peut-être pas être. Non, mathématiquement, ils vont avoir du mal à être deuxième. Mais franchement, il est dans la course, quoi, au titre de coach de l'année. Clairement, je serais pas choqué si c'était lui. Après, il l'a peut-être déjà eu du coup sur sa première saison. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment du bon boulot. C'est une équipe qui est bien construite, qui progresse bien. Et là, on le voit sur le match de cette nuit, 182 yards au sol, 359 yards et 2 touchdowns sans interception pour Josh Allen, Stephon Diggs en feu, tout fonctionne, la défense monte en puissance, Josh Allen monte en puissance, Stephon Diggs monte en puissance, le jeu au sol commence à être là aussi, ils sont, sur ce match, ils font 534 yards à 255, donc voilà, ils vont être très très durs à jouer en playoff. Sean McDermott fait du super boulot, et en face, bon, ils étaient favoris hein, de ce match, ils n'ont pas non plus voilà, explosé les plus grands, mais ils vont être très durs à prendre en playoff. Voilà, c'est vraiment une équipe très très solide actuellement du côté de la AFC Est. Titre en AFC Est d'ailleurs, ça faisait une éternité, je crois 95 hein, qu'ils n'avaient pas gagné le titre AFC Est, les Bills. Donc franchement, ça fait plaisir aussi pour cette équipe qui a été bien construite, qui a un bel exemple de ce qu'il faut faire pour se reconstruire. Du côté de Denver, un petit mot, évidemment, c'est une défense qui a eu beaucoup de blessures tout au long de la saison. Von Miller n'est pas là depuis un moment, ils ont seulement 3 cornerbacks actifs sur ce match. Au bout d'un moment, ça allait se payer. Ils se défendaient plutôt bien hein, sur les semaines précédentes, honnêtement, avec le matos qu'ils avaient. Donc, ils ont fini par craquer. Là, ils prennent un bouillon terrible à plus de 500 yards. C'est dur de leur reprocher. Et puis, Drew Lock, on le sait, n'est pas encore totalement mûr. Alors après, je pense que le rêve de Denver, c'est que Drew Lock soit leur Josh Allen. C'est-à-dire qu'il progresse petit à petit. C'était un projet, un joueur avec beaucoup de potentiel, un gros bras. Voilà, je suppose que l'espoir, c'est qu'il fasse quelque chose. Le problème, c'est que c'est qu'il n'a pas le même coaching autour de lui. Il n'y a pas. Il y aura peut-être la défense l'an prochain, mais voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas la ligne. Alors qu'à Buffalo, il s'était plutôt bien débrouillé au début pour entourer Allen. Bon, voilà, ça va être compliqué. C'est vraiment encore une interrogation au niveau de Drew Lock. Il y a plus de mauvais que de bons, à mon sens. Donc voilà, ils vont voir à ce niveau-là, mais ça me semble compliqué pour l'instant. Packers-Panthers, c'était le deuxième match de la soirée. Packers 24, Panthers 16. Deuxième mi-temps difficile pour Green Bay. Ils ont marqué sur leurs 3 premières possessions. Derrière, il y a 5 punts. Seulement un field goal en deuxième mi-temps. On va dire que l'important, c'est les 3 points, comme on dirait sur d'autres stades. Voilà, l'important, c'est les 3 points. Ils enchaînent les matchs. On arrive à la fin de la saison. Ça arrive d'en lâcher. Il y a des équipes très hautes qui peuvent en lâcher. Là, l'important, c'est qu'ils n'aient pas lâché. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à en tirer de ce match côté Green Bay, au sens où on sait ce que cette équipe vaut offensivement, ce qu'elle peut faire. On connaît aussi ses lacunes, notamment contre la course. Après, voilà, c'est vraiment un match sur lequel ils ont commencé fort et puis ça suffisait. Teddy Bridgewater a le ballon de la gagne à la fin, mais il va pas au bout. Donc, bon, au moins, la défense a fait le boulot sur la fin. C'est déjà ça. Mais voilà, il y a 195 yards au sol quand même. Aaron Jones en pose 145, l'air de rien. Voilà, derrière, Rodgers fait un petit match à 143 yards. C'est pas dingue, il perd beaucoup de yards sur les sacks en plus. Donc voilà, ils ont été tranquilles. Franchement, là-dessus, c'est pas un match fou, c'est pas un match hyper convaincant, mais c'est pas un match alarmant non plus. C'est vraiment un match sans grand intérêt. Et du côté de Carolina, honnêtement, c'est là où on va voir qu'il y a des progrès à faire dans le coaching en termes dans les choses à venir, parce que Matt Rhule découvre quand même le coaching NFL. Ils sont à 0-8 cette année, 0 victoire, 8 défaites dans les matchs où il n'y a qu'une possession d'écart. Donc Bridgewater a encore la balle de l'égalisation, on l'a dit. Ça va venir avec le coaching, ces matchs serrés. Ça va venir avec le coaching si c'est un match serré. Après, je suis pas tout à fait rassuré sur les capacités de Bridgewater à aller chercher ces rencontres comme ça. Mais encore une fois, avec des coachs, Théophane demande est-ce que Bridgewater a vraiment le quarterback du futur à Carolina? Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, franchement. Je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, donc voilà, j'ai un peu de mal avec Bridgewater. Est-ce que je préfère Bridgewater ou Hills? Taysom Hill, je suppose. Je pense que je préfère Bridgewater, mais honnêtement, si j'ai le choix, je préfère avoir un autre quarterback que ces deux-là pour mener mon équipe. Qu'est-ce que je pense de Matt LaFleur? Demande Gus. Honnêtement, Matt LaFleur, c'est un coach avec une philosophie offensive qui met en place petit à petit et qui marche bien. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur ce match-là. Ils mettent en place leur jeu au sol. Rodgers fait son match. Derrière, ils s'endorment un peu. Tout le monde n'est pas à 100% tout le temps. Hein, donc voilà, ils ont gagné ce match. C'est le plus important. Moi, j'ai vraiment pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Les Panthers, eux, doivent progresser sur le coaching, sur la finition, avoir un Christian McCaffrey qui revient. Ils sont derniers de la NFC hein, sur les victoires défaites, sur le bilan, ils sont derniers. Franchement, je trouve que c'est un peu dur. C'est pas forcément la pire équipe de la NFC à mon sens. Mais voilà, donc, ils feront mieux l'année prochaine. Je pense qu'ils ont posé des bases cette année. Oui, Bob nous le dit, la relation Rodgers-Lafleur a l'air de bien se passer. Ils sont en train en effet de se mettre en place. Et c'est pour ça, moi je ne suis pas inquiet pour ça. Franchement, je ne suis pas inquiet. Après, est-ce qu'ils sont pas trop suffisants pour aller loin en playoff, les Packers? Je demande Jean Bleu. Oui, moi tant que j'aurais pas vu autre chose que la pilée qu'ils ont pris l'an dernier contre les 49ers, je ne serais pas rassuré. Donc, on va voir à ce niveau-là. Mais clairement, j'attends de voir pour être convaincu qu'ils peuvent aligner trois bons matchs de playoff, voire quatre maintenant. Le Chargers Raiders, donc de jeudi. 30 pour les Chargers, 27 pour les Raiders. Alors, vous ne me verrez pas dire, ça y est, Marcus Mariota est le sauveur, il peut le faire, il faut le faire jouer à tout prix, tout ça, tout ça. Vous ne m'entendrez pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est qu'un match. Parce que c'est contre les Chargers, parce qu'il n'a pas été parfait et que il l'a perdu. Donc déjà, ne comptez pas sur moi, encore une fois, pour sauter au plafond parce que Marcus Mariota a fait un match correct. Raoul a été ravi. Ça oui, on fait une bise à Raoul. Tu as raison, Vincent. Il était content que Mariota ait joué. De là à dire qu'il a été bien meilleur que Carr. Encore une fois, il a été bon, il a été dynamique, il a gagné plus de 80 yards au sol, ce qui est évidemment une différence. Alors oui, Derek Carr est blessé, pour préciser, en effet, il a raison, Degan, de demander. Derek Carr s'est blessé en début de match aux adducteurs, il devrait être absent une dizaine de jours, 10 à 14 jours. Voilà, Mariota rentre, fait un bon match. Bon, moi, à la limite, je vais vous dire, ok, faites-le jouer la fin de saison. Il reste deux matchs. Carr a mal aux adducteurs, ça va durer 10-15 jours. Au moins un match pour Mariota, voire le deuxième s'il y a moyen. De toute façon, c'est râpé pour la course au playoff. Autant savoir à peu près ce qu'ils ont sur le banc. Si jamais ils ne sont pas amoureux de Derek Carr, au moins ils peuvent savoir s'ils ont un quarterback de transition, s'ils veulent drafter un nouveau quarterback, par exemple. Bon, je pense que ça s'arrête là. Après, est-ce que Marcus Mariota peut faire revivre sa carrière, être un quarterback titulaire solide, etc., etc. Je ne vais pas vous dire jamais. Je l'aurais jamais cru pour Ryan Tannehill quand il l'a fait aux Titans, par exemple. Donc, peut-être, et je souhaite toujours le positif aux joueurs. J'espère franchement que Marcus Mariota va se réveiller, faire une grande carrière, etc. Mais franchement, voilà. Ne nous emballons pas, c'est un match de fin de saison avec deux équipes. J'avais oublié l'épisode où Derek Carr a été étincelant, c'est ce que j'entends dans vos propos, et pourtant non, il ne l'est pas, dit Flo07. Oui, alors il n'était pas étincelant, mais il n'était pas catastrophique. C'était un quarterback honnête cette saison. Et Mariota n'était pas étincelant non plus cette année. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'enflammer. Ils ont pas trouvé significativement mieux que Derek Carr. Donc voilà, après, c'est pour ça que s'ils veulent s'épargner le salaire de Carr, ou je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein, mais. Si au demeurant ils se disent bon bah Mariota il fait le taf suffisamment pour couver un rookie et puis on peut se débarrasser de Carr, bon bah voilà, pourquoi pas. Mais Carr cette année fait pas une saison affreuse, il fait une saison solide, il fait quelques bons matchs, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Mariota est pas non plus le sauveur, a priori. Il va falloir attendre en tout cas de voir plus, je lui souhaite, mais on n'en est vraiment pas. À mettre tout de suite Mariota en avant. S'ils veulent significativement mieux que Carr, il faudra peut-être drafter, développer, mais là c'est vraiment toute une autre mayonnaise et c'est pour l'intersaison qu'on parlera de ça. Carr est en panne, Carr s'est claqué, il était déjà claqué. Je vois que les jeux de mots fusent sur le chat. Les Chargers, on sait à peu près ce qu'on a, un super quarterback, des mauvais coachs, un terrible kicker. Et terrible, c'est pas en positif. Je dis ça parce que je suis vieux et des fois j'ai du mal avec les adjectifs utilisés maintenant. Terrible, c'est négatif. C'est comme lourd. Quand les gens disent c'est lourd, pour moi c'est négatif. Mais bon, c'était la partie linguistique. Ce que je veux dire donc, c'est que pour les Chargers, il n'y a pas de surprise. On en reparlera un peu dans les cadeaux de Noël d'ailleurs, les Chargers. J'ai un petit cadeau de Noël pour eux. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il est 18h19. Et oui, et la défense des Raiders n'a pas aidé le bilan. Le toutou n'a raison de préciser, leur défense est quand même le premier axe de progrès de l'intersaison. C'est-à-dire que même avec Carr et cette attaque, s'ils avaient eu une défense un peu plus costaud que ça, ils auraient peut-être été en playoff cette année. Donc ça, c'est vraiment, vraiment problématique aussi. Colin le dit bien, pas de pass rush. Khalil Mack manque, bien sûr, il manque un leader défensif à cette équipe. Moi, on peut me vendre ce qu'on veut sur les choix de draft qu'ils ont récupérés. Franchement, ils ont toujours pas un playmaker de la trempe de Khalil Mack dans les choix de draft qu'ils ont récupérés. Il y a Josh Jacobs, très bien, c'est un bon coureur, aucun problème. John Gruden veut courir. Bon, on ne lèverait pas de l'idée que c'était plus facile de trouver un Brandon Jacobs qu'un Khalil Mack. Et aujourd'hui, bah, voilà, on le voit. Donc, et c'est dommage parce que je crois que c'est un trade perdant-perdant d'ailleurs, l'échange pour Khalil Mack. Parce que bah, les Bears ils sont contents, ils ont une super défense, ils n'ont pas d'attaque. Et les Rams et les Raiders, c'est l'inverse. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est Josh ou ouais, Jacobs. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi Brandon, Josh, Brandon. Brandon, c'était, alors pour les plus jeunes, Brandon, c'était le coureur des New York Giants quand ils ont gagné le Super Bowl 2007-2008. Donc en 2008, c'était la première année du site et je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur Brandon Jacobs. Je vais dire son nom tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis désolé. Mais voilà, pour l'échange de Khalil Mack, ils ont récupéré Josh Jacobs, Damon Arnett, Brian Edwards. Et un choix du sixième tour qui était devenu un choix du quatrième utilisé pour Foster Moreau. Et si vous suivez pas vraiment les Raiders, en dehors de Josh Jacobs, vous savez pas qui sont ces mecs. Donc voilà, je dis ça. JP, alors attendez, JP, on a qu'une heure. Qu'est-ce qui manque aux Dolphins pour viser le Super Bowl? Oh, bah, je veux dire, bah, il va falloir que Tagovailoa progresse, mais c'est pas impossible. Là, ils sont sur la bonne direction. Est-ce que je crois vraiment aux équipes qui activent le mode playoff et deviennent meilleures d'un coup? Question de Baptiste, très bonne question. Franchement, mode playoff, je ne sais pas. Je pense que non, la saison régulière construit quand même ce que tu vas faire. Après, je crois que, évidemment, c'est mieux d'avoir ton pic au mois de décembre qu'au mois de octobre. Je dis ça parce que, par exemple, les Seahawks, ça fusait dans tous les sens au début de l'année. C'est plus compliqué pour l'instant. C'est un exemple parmi d'autres, hein, pour y en avoir d'autres, mais et à l'inverse, les Bills ont eu un petit creux en milieu de saison, et ils remontent maintenant et c'est là que c'est important. Donc, je sais pas si je crois au mode playoff, mais je crois à l'élan de fin de saison. On a déjà vu des équipes qui étaient qualifiées en tête de série numéro 6 ou 5, mais qui étaient vraiment dans un bon élan et qui ont fait tomber des équipes mieux classées qu'elles en playoff parce que justement, elles étaient sur une bonne dynamique. Les Eagles il y a quelques années, hein, pour ne parler que d'eux. Les équipes les plus solides en NFC pour affronter les Chiefs au Super Bowl, aucune. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Évidemment, je dis pas que les Chiefs vont battre n'importe qui au Super Bowl. Je dis juste que sur le papier, mais dans n'importe quelle conférence, hein. Aujourd'hui, on va dire que le match-up le plus dur pour les Chiefs, c'est les Bills, parce qu'ils sont en super forme. Mais, alors, si, je vous dis une bêtise. Là, l'équipe sur le papier la plus solide pour affronter les Chiefs, c'est évidemment les Saints, parce que c'est les plus complets. Ils ont une attaque, ils ont une défense. Voilà, mais après, il n'y a pas grand monde. Personne ne peut rivaliser avec les Chiefs aujourd'hui sur le papier. Sur un match, bien sûr. Sur le papier, moins. Les Giants auraient-ils dû faire jouer McCoy la semaine dernière ? Probablement, vu que Daniel Jones s'est blessé et que ça s'est aggravé. Bon, voilà, avec le recul, c'est plus facile pour nous. Après, c'est pas facile, hein, c'est des sportifs, ils ont envie de jouer. Le mec, il va dire, je peux le faire. Il est gêné, et voilà. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait du sport savent que même avec la douleur, des fois, on a envie d'y aller. Et je dis ça, je dis on, parce que je me sens concerné au sens où ça concerne même l'amateur ou le mec qui a pas de niveau comme moi ou machin. Mais des fois, je sais pas, vous êtes tordu la cheville ou vous êtes ceci ou cela, vous dites je vais essayer de continuer parce que vous amusez, soit parce que c'est le challenge, soit parce que vous voulez pas laisser tomber les potes. Donc je comprends que Jones il a essayé de jouer la semaine dernière, hein, honnêtement. Je regarde juste. Tu y crois au réveil des Eagles pour remporter la division des gars? Franchement, je me passe de faire des pronostics sur la NFC Est. Je n'ose plus. Qu'est-ce que ça va changer cette année les 7 équipes qualifiées en play-off? Et bah, tout simplement qu'il n'y a plus qu'une seule équipe qui aura une semaine de repos par conférence au lieu de deux, et qu'il y aura donc un match de plus au premier tour des play-offs. C'est-à-dire que les autres années, on avait 4 matchs de wildcard, donc 2 par conférence, 4 matchs de wildcard, 4 matchs de divisional, 2 finales de conférence, le Super Bowl. Cette année, on aura 6 matchs de wildcard, 4 matchs de divisional, 2 matchs de finale de conférence et le Super Bowl. Donc on a 2 matchs de play-off en plus. C'est ça que ça change, 2 équipes de plus, 2 matchs de play-off en plus. Aussi simplement que ça. Ils laissent bien jouer les kickers qui n'ont pas de jambes, oui, ça, c'est sûr. Je remonte un petit peu vos questions. Lornilus, Garoppolo va-t-il rejouer un jour? Alors justement, je sais plus si c'était, je crois que c'était ESPN qui annonçait cet après-midi que apparemment il pourrait ne pas rejouer cette année, en tout cas. À la fois, je pense, parce qu'il met du temps à se remettre de sa blessure, puis deuxièmement, parce qu'ils vont être. Ils vont être hors course pour les playoffs, je veux dire, donc je suppose qu'il n'y aura plus d'intérêt à le blesser. Pourquoi je n'aime pas ce format, Rafa, je suppose que tu parles des playoffs. C'est simple, c'est la rareté qui fait la qualité du produit, si je peux me permettre de. Qui fait la valeur en tout cas du produit, pas la qualité. Et j'aime pas qu'on mette encore plus d'équipes en playoffs. J'ai pas envie qu'on ait la moitié de la ligue qualifiée en playoffs. C'est déjà difficile d'avoir 6 équipes de qualité par conférence. J'ai pas envie qu'on glisse des équipes qui sont là à l'arrache avec des j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. C'est comme j'ai pas envie. C'est comme regardez, enfin, je vais prendre un exemple que je connais, mais la NBA a la moitié des conférences en playoff. Bah, ça te donne des premiers tours qui sont quand même rarement passionnants, quoi. Alors, on va sûrement me trouver un exemple par-ci par-là, j'en doute pas. Mais en fait, moi, j'aime bien voir les meilleurs qui affrontent les meilleurs et j'ai pas besoin d'en avoir en plus, quoi. Donc non, moi, ça m'intéresse pas, franchement. Hein. 2 équipes au repos, c'était bien, c'était équilibré, c'est très bien. C'est comme de mettre un 17e match à la saison régulière et ce sera un 18e dans quelques années. Il y a déjà beaucoup de blessés, il y a déjà beaucoup d'indisponibilités, etc. J'ai pas envie qu'on en rajoute. Donc non, 6 c'était très bien. 6 c'était très bien. Là, cette année, bah, si on regarde les classements, j'ai pas en tête la 7e tête de série, mais ça me dérange même pas qu'il y en ait un qui soit perdu au raccro. Là, pour l'instant, le 7 c'est Miami et Arizona. C'est des belles équipes, hein. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Il y a eu des années où ça aurait été pire. Mais voilà, il y a des fois où j'aurais pas envie de voir des équipes à 7-9 qui vont se glisser au premier tour. Donc franchement, moi ça m'intéresse pas des masses qu'on rajoute. Et Quentin a raison, j'ai vu le message passer pour une histoire de thune, point d'interrogation. Évidemment, tout est question de pognon, c'est le nerf de la guerre. Plus de matchs, plus de droits de TV, plus de pognon. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Après, c'est pas mon goût, c'est pas mon truc préféré. derrière, ça m'empêchera pas de dormir, je vais pas en faire un scandale, voilà, c'est pas très grave, mais voilà, c'est une question d'argent, de la même manière que bientôt il y aura 40 pays dans les Coupes du Monde et enfin voilà, moi c'est ces trucs-là. Ah, il est là l'équipe, il est là l'exemple improbable qu'on m'a trouvé, Jorginho Del Barrio, les Knicks 99 en NBA, oui, mais les Knicks 99, donc il y a 21 ans, quoi. Donc voilà, et dans une saison de lockout, hein, on me l'a fait pas. C'était une saison de lockout écourtée. Donc voilà, faut arrêter Jerry Jones, c'est avant tout la passion du sport, dit Ginou. Et mine de rien, tu sais quoi, autant il a des comment dire, il a des mauvais côtés, Jerry Jones et tout ça, autant on peut pas lui reprocher d'être un des propriétaires qui pensent le moins au sport, je pense. Les Rockets 6e en 94, Rafa. Bah ouais, 6e, pas 8e. Donc tu peux trancher 7 et 8. On s'en fout. Après, attention, le truc c'est qu'en NBA, il y a une question d'équilibre, puisque tu as 4 match-up, après 2, etc. Donc c'est différent. Il n'y aurait pas une. Parce qu'en NBA, les mecs, sur une série de 7 matchs, si tu laisses une équipe au repos, les types, ils ont 2 semaines et demie de vacances. Bon. Mais voilà, donc encore une fois, moi c'est pas mon truc, après c'est pas grave, hein, je vais blâmer personne de vouloir plus de matchs, je peux comprendre aussi dans l'autre sens, hein, il n'y a pas de souci. Oui, Jerry Jones, ancien joueur universitaire, oui, non, je pense que Jerry Jones, pour le coup, est un des propriétaires, autant il aime l'argent, je suppose, autant c'est sûrement un des propriétaires qui aime le plus le football américain, surtout ceux qui rachètent récemment ces dernières années, quand on voit l'investissement que constitue une franchise NFL, c'est-à-dire que les mecs achètent ça 2 milliards maintenant de dollars, mais ils vont vendre ça 3 ou 4 dans quelques années. Donc, Bebop, nous, quelle franchise penses-tu être la plus à même de développer les prochains quarterbacks de la draft? Ouh, alors là, je ne connais pas encore tous les quarterbacks de la draft, il y avait une émission draft sur le site le samedi, c'est eux qui vont vous dire ça. Jean-Baptiste, les Giants ont gagné le Super Bowl.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at allbirds.com. That's Allbirds.com.
En 2011, en étant les derniers de la wildcard. Non, mais ça me va très bien, mais ils étaient sixième. J'ai pas besoin d'un septième. Parce qu'au bout d'un moment, on va dire, ah oui, mais le septième a gagné une fois en 20 ans, du coup, on va en mettre un huitième. Et puis, ah, le huitième a gagné une fois en 30 ans, on va en mettre un neuvième. Moi, c'est ça que je vous dis. Évidemment qu'il y a des exceptions, mais donc 6, ça suffit déjà pour avoir des surprises. Donc, on n'est pas obligé d'en rajouter encore et encore. Bon, voilà. Mais encore une fois, des exemples, il y en a. Moi, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je ne fais pas des exemples une généralité. Je donne ma philosophie. Je ne fais pas d'exemple. Enfin, je ne fais pas de généralité avec des exemples. Sinon, vous allez tout, sinon on dit, ah bah, on draft on fait des équipes avec Trent Dilfer pour gagner le Super Bowl. Allez, les Buccaneers, ils ont réussi une fois. On fait des Trent Dilfer, ça suffit pour gagner le Super Bowl. Non, c'est des mecs qui arrivent. C'est des trucs qui arrivent une fois en 20 ans. Ça me rend pas fou, quoi. Pour moi, si on devait augmenter, il fallait passer à 8 pour plus d'équité. Ouais, mais voilà, non, mais du coup, ça. Et au bout d'un moment, sinon, on fait même plus de sélection, et puis on refait un tournoi final à la fin de la saison régulière, et la saison régulière, elle sert à rien. Mais moi, franchement, ça me. 4 vainqueurs de division, 2 équipes qui n'ont pas eu de bol de tomber sur un vainqueur de division qui survole, et hop, on était très bien. On part sur des Michael Chang à Roland Garros. C'est pas le même sport, les gars. Hein. Roland Garros, il n'y a pas de semaine de repos, il y a pas de. Ils commencent tous au même niveau. Ça, c'est pas un problème. Non, mais Quentin, j'ai encore foi en la NFL. Je dis juste que là, vraiment, c'est vraiment des questions personnelles. Je vais te dire, quand je suivais beaucoup la NBA, j'ai toujours été contre la saison à 82 matchs. Je trouve que c'est beaucoup trop et que c'est trop, 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 trop long. Donc, non, c'est pas d'avoir perdu la foi ou quoi, c'est d'avoir des envies ou des préférences, en tout cas, encore une fois, c'est même pas une opinion, quoi, c'est mes préférences. Moi, j'aime bien, en fait, justement, j'aime tellement la NFL que j'aime bien le côté exclusif et j'aime bien que chaque match soit intense et veuille dire quelque chose. Et ce que je trouve cool, justement, dans la NFL par rapport à la NHL, où il y a 82 matchs, ou la NBA, où il y a 82 matchs, le baseball, où il y a 250 000 matchs, ce que j'aime bien, c'est que chaque match veut dire quelque chose. Tu peux perdre ta place en playoff quasiment toutes les semaines, quoi. Et donc ça, c'est quand même cool. Tu regardes tous les matchs pour quelque chose. C'est pas, oh, je vais allumer la NHL là, il y a un match. Bon, mais c'est pas grave, il y a 40 victoires derrière, quoi. Donc moi, c'est ça. C'est ça, bon, ce que j'aime avec la NFL. Mais après, encore une fois, hein, je ne veux pas me plaindre de voir un match de plus. Hein. Tout le monde qui doit s'arracher, je suis d'accord avec toi. Voilà, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bon, après, on est à l'abri des 82 matchs, a priori, en NFL, en termes de santé. Le thème de la semaine, le thème de la semaine, c'est Noël, c'est Noël. Je suis désolé, je ne suis pas très de décoration de Noël. Alors, il n'y a pas de décoration de Noël sur le fauteuil. Mais on va faire des cadeaux de Noël quand même. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est un thème avec l'aide des auditeurs parce que j'avais un petit trou, j'avais pas d'inspiration forcément pour le thème de. Enfin si, je suis parti là-dessus, je ne sais pas si ce sera assez dense, je me dis c'est un peu de l'impro, mais quand même. Donc, le thème de la semaine, on choisit un joueur NFL et on lui fait un cadeau. Ce que vous voulez, ça peut être une ligne, un coureur pour l'aider, etc., etc. Moi, j'en ai choisi 5, comme d'habitude, j'ai fait mon petit top 5. Il y en a qui ont fait des suggestions sur Twitter, parce qu'on a balancé le thème sur Twitter, et évidemment, vous pouvez en faire sur, comment dire, sur le chat. Je vois pour l'interdiction des playoffs aux équipes dans le négatif, hashtag NFCS, dit Alban. Non, mais après, c'est toujours sympa d'avoir une équipe, un champion de division avec un bilan pourri, c'est toujours rigolo, parce qu'on pense qu'il va se faire démonter, mais des fois, là, pour le coup, c'est des surprises marrantes. Mais je suis pour que les champions de division aient toujours l'avantage du terrain et soient toujours dans les quatre têtes de série parce que la division, c'est l'objectif numéro un en NFL, c'est les équipes que tu joues le plus. Ça me va. Une croix tiède à Philippe Rivers, Jean-François, bah dis donc, t'es méchant. Du Doliprane à Mason Rudolph pour. Ah, c'est dur ce pseudo, t'es dur là. TRFST4 CGD. Oh, y en a qui sont méchants. Le kicker des Chargers, c'est une. Ah, une pipe. Ah, c'est marrant. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Un bras à Lamar Jackson, une bague pour Drew Brees. Bah, il y en a déjà une, Drew Brees, une deuxième. Mais ça va, il fait partie de ceux qui en ont quand même. Un sourire pour Belichick, une nouvelle franchise à Vance. Un sourire à Aaron Rodgers. Oh, vous êtes dur, il sourit des fois à Aaron Rodgers quand même. De l'espoir pour Darnold, un deuxième Super Bowl pour Rodgers. Machine à voyager dans le temps pour Cam Newton. Ouais, Ryuzar, il en a besoin malheureusement. Un quarterback pour jeudi, donc Jerry jeudi. En cadeau, un procès pour Antonio Brown, Violaine, ça va venir. Ça devrait venir, je crois. Mais c'est l'année prochaine, c'est ouf. Bon, bref. Une bannière pour les Bills, c'est vrai que ce serait plutôt sympa. Une qualification en playoff pour les Browns. Une chemise à fleurs pour Drew Brees. Un coach des équipes spéciales pour les Vikings. Bon, il y a pas mal de choses. Une salade pour Andy Reid. Et Orlin, il est cruel. Bon, moi, je vais vous dire les 5 que j'avais. Un nom pour Washington. Ah, c'est vrai. Eh, faudrait qu'on fasse une émission, genre, quel nom pour l'équipe de Washington? Ça pourrait être marrant, ça. Moi, j'ai des idées, parce qu'il y avait des trucs qui étaient proposés, mais ouais, des idées. Une pince de crabe pour Jameis Winston, Flo 07 a raison. Mais il a peut-être mis ça derrière lui. La santé pour Ron Rivera, ça c'est vrai, c'est important. Une équipe de médecins pour les Chargers, des receveurs pour les Pats, un couteau suisse pour Tyson Hill, un nouveau et bon staff médical pour les 49ers. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un bon staff médical, j'ai l'impression que ça revient souvent. Bon, moi je vais vous dire, un cadeau pour les Jets, pour commencer. Ah ouais, du coup, c'est pas un joueur, mais une équipe. Bon, le cadeau pour les Jets, c'est évidemment Trevor Lawrence. Et j'espère surtout que Trevor Lawrence sera aussi fort que ce qui est annoncé. Donc ça, ce serait quand même mon cadeau de Noël pour les Jets. Au sens où, j'espère aussi que Trevor Lawrence ne va pas se blesser pendant les playoffs de college football, parce qu'on sait jamais avec la baraka qu'ils ont. Alors, virer Adam Gase, je pense que ça va de soi. Hein. Pour moi, c'est pour ça que là, je le dis même plus. Je pense que ils auront, enfin, s'ils ont Trevor Lawrence, Adam Gase est viré puisqu'ils seront à zéro victoire, donc ils vont pas garder Adam Gase à zéro victoire, ou alors ils sont complètement barjots. Hein, mais là, par contre, moi, je vous le dis, c'est-à-dire que s'ils gardent Adam Gase après cette année, ce qui me semble complètement impossible, mais si ils gardent Adam Gase cette année, tous les gens qui supportent les Jets, enfin, je pense que vous êtes en droit de changer d'équipe, quoi. Enfin, vous pouvez pas souffrir comme ça. En tout cas, si Gaspard, qui tu vas être détesté, demande Ginou, ne t'inquiète pas, tous les ans on trouve, il n'y a pas de problème là-dessus. Le deuxième, c'est alors c'est Lamar Jackson. Tiens, on va prendre Lamar Jackson parce que vous avez, il y a plusieurs personnes qui l'ont notifié sur sur Twitter et je pense que c'est une bonne chose. Un receveur pour Lamar Jackson. Alors, il a Marquise Brown, il a Willie Snead, mais c'est pas suffisant. Bon. Moi, je ferais juste remarquer que DeShaun Watson se débrouille avec moins que ça. Bon. Mais pour Lamar Jackson, honnêtement, moi, je veux bien. On va même dire deux excellents receveurs. Deux, comme ça. Je suis. C'est les promos, c'est Noël, on a dit. Deux excellents receveurs pour Lamar Jackson. Pourquoi? Pour deux choses. Un, qu'il n'ait plus d'excuses. C'est-à-dire qu'on sache vraiment. Et deux, pour qu'on n'entende plus ses supporters s'il est mauvais. Moi, ça, dans tous les cas, on gagne. C'est-à-dire qu'on donne des bons receveurs à Lamar Jackson, soit il cartonne, et là on dit, ah, c'est vrai qu'il lui manquait des bons receveurs. Et là, les gens qui pensaient qu'il était bon, ils disent, haha. Et s'il réussit pas avec les bons receveurs, et ben là, comme ça, les gens qui pensaient qu'il n'était pas bon diront, haha, au moins on est fixé. Voilà. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, mais je pense aussi que quand c'est les coachs qui choisissent de ne pas te faire beaucoup lancer, pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que moi, on peut me dire autant qu'on veut, oui, mais il lance pas parce qu'il n'a pas de receveur, etc. Il y a des quarterbacks pas excellents, enfin, il y a des quarterbacks qui n'ont pas énormément de matos, mais qui arrivent à faire briller des receveurs qui ne sont pas forcément de premier ordre. Voilà, donc j'attends de voir, franchement, j'attends de voir. Troisième cadeau, pardon, c'est pour Sean McVay. J'y pensais parce que je l'avais, alors je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons, pour trois raisons. Un, parce que j'en ai parlé dans l'émission de mardi, ou jeudi, je sais plus. Deux, parce qu'il y a son maillot derrière. Et trois, parce que j'ai testé dans Madden et en effet, il est pas très, il pourrait faire mieux. Pour Sean McVay, pour Noël, j'aimerais lui offrir un quarterback à la hauteur de son talent de coach. C'est-à-dire que je pense que le jour où McVay trouvera son Aaron Rodgers, son slash Tom Brady, Drew Brees, Ben Roethlisberger même, même Philippe Rivers en début de carrière, vous voyez le truc. Même pas un Pat Mahomes ça arrive une fois tous les 15 ans, mais un vrai quarterback, franchise quarterback, qui peut dérouler toutes les semaines, qui peut aller chercher des matchs, qui peut, voilà. Et bah, le jour où Sean McVay il a ça, ce serait très intéressant. Ce sera très, 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 très intéressant. Et je pense que, bah, talent générationnel, je sais pas, Rafa, c'est pour ça que je dis pas forcément à Mahomes. Rodgers, évidemment, c'est un talent générationnel. Mais tu vois, Breeze, c'est un très, 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 très bon quarterback, mais avec un très, très, très bon coach. Donc, je ne sais pas si c'est un talent générationnel, Breeze, sans Sean Payton. S'il se retrouve dans des équipes coachées à l'envers, bah, tu vois, je suis pas dingue. Je dis pas qu'il aurait été mauvais, que ça aurait été une catastrophe. Je dis juste que voilà. Ça aurait pu être intéressant. Vance, ce serait intéressant. Rafa. Des receveurs de haut vol, il en a, hein. Attention, Robert Woods et Cooper Kupp sont très très bons. Franchement, ils se débrouillent bien avec ça. Vraiment, je pense qu'ils sont limités maintenant par Jared Goff en attaque. Je ne dis pas qu'ils ont un plafond hyper bas, mais voilà, ils ne seront jamais une attaque avec un très bon franchise quarterback qui fait dérouler. Est-ce que tu as le bol de tomber sur un bon mec plus loin dans la draft? Voilà, Doc Marty le dit, Rodgers a joué 13 saisons avec McCarthy sur le banc, il mérite 5 Super Bowls de plus, oui. Mais voilà, Goff, c'est Alex Smith en moins bien, dit Vincent, et je suis plutôt d'accord, c'est ça que je veux dire. Avec Vincent, Goff, c'est une sorte d'Alex Smith, c'est-à-dire qu'en effet, peut-être qu'il va progresser un petit peu comme l'a fait Alex Smith. Hein. Smith, au début de sa carrière, c'était très très dur, il avait été mis sur le banc et tout. Il avait trouvé un peu un mentor avec Jim Harbaugh qui l'avait relancé, et puis derrière avec Andy Reid à Kansas City, etc. Mais voilà, je pense que Goff sera un peu dans ce moule-là. C'est son meilleur scénario, c'est un développement à Alex Smith, quoi. Donc, c'est pas ouf. Ce serait bien. Moi, je souhaite vraiment à Sean McVay parce qu'il peut faire un malheur s'il a un quarterback de haut niveau. Dak Prescott, c'est pas mal. Ce serait un peu mieux. T'as raison, Malaki. Après, Dak Prescott, c'est quasiment infaisable parce que, enfin, c'est même infaisable, je pense. À part s'ils arrivent à se débarrasser de McVay, de Goff pendant l'intersaison. Mais voilà. Mahomes, est-il vraiment un talent générationnel quand tu commences avec tout, une ligne, des receveurs? Mais Michael, mais bien sûr. Bien sûr. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui ont commencé avec tout ça et qui ont fait rien. Donc, c'est bien d'avoir les receveurs, la ligne et tout ça, hein, mais il faut jouer avec aussi. Il y en a plein qui ont eu tout ça et qui ont fait que dalle. Donc, évidemment que c'est un talent générationnel. Mahomes est un extraterrestre. C'est un mec comme on en voit il y a 15 ans. Il ne faut pas avoir peur de l'apprécier. Il ne faut pas chercher à pinailler ou quoi. Mahomes, c'est un talent générationnel. On s'éclate. On va le voir. Il faut espérer que ça dure le plus longtemps possible. Mais c'est un joueur exceptionnel. Il y a des mecs qui ont la ligne, qui ont les receveurs, qui ont tout ce que vous voulez, les coachs, le machin, le truc, et qui sont des buses. Donc, des buses à leur niveau, évidemment. Mais donc, non, évidemment, je veux dire. Qui? Bah, non, mais il y a des tonnes de mecs qui ont été mis dans des bonnes attaques avec des bons receveurs, qui se sont vautrés. Donc voilà, je pense. Il y a des mecs, alors je prends les Rams des années 2000, mais quand Kurt Warner est parti, bon, Mark Bulger a fait des bonnes saisons, etc. Mais c'était pas non plus. Voilà, c'était pas incroyable. Donc voilà, il y a des mecs qui peuvent avoir tout ou quasiment tout. Parce que je pense pas que Mahomes c'est complètement tout. Il a un coureur rookie avec lui, il a pas non plus Marshall Faulk en époque ou Adrian Peterson 2007. Il n'a pas une ligne offensive qui est. Il fait briller sa ligne offensive aussi. Il faut voir ça. Ça marche dans tous les sens, hein, une équipe NFL. C'est-à-dire que c'est circulaire. Il fait briller aussi tous ces mecs-là. Est-ce que ces mecs-là seraient aussi forts et feraient de telles stats s'ils n'avaient pas Mahomes pour leur lancer des caviars? Probablement pas. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, hein, dans ces choses-là. Donc voilà, oui, il ne faut pas traiter de buse des mecs qui font 1,95 m et 100 kilos hors l'un, tu as bien raison. Est-ce qu'on peut offrir cette équipe dernière extraterrestre avant Mahomes? Bah, Aaron Rodgers, sur ses saisons MVP, c'est extraterrestre pour moi aussi. C'est le premier qui me vient. Les saisons MVP d'Aaron Rodgers, c'est. Il marche sur l'eau. Donc, Wilson, talent générationnel. C'est dur, je sais pas, c'est dur les termes genre talent générationnel et tout. C'est un excellent, excellent, excellent quarterback. Voilà, après, c'est quand même très, très dur. James Winston, je vois passer le nom. Hop, Steve Young, oui, non, mais après, voilà, il y a des joueurs comme ça qui marchent sur l'eau. Après, il y en a d'autres, c'est différent. Mahomes, il y a un talent et une facilité qui sont incroyables. Des Brady et des Brees, c'est des monstres de boulot, mais ils n'ont pas cette facilité. Donc c'est un peu différent. Donc j'ai fait le cadeau à Lamar Jackson, à Sean McVay, aux Jets. Il m'en reste deux, il est déjà 45, donc je vais un peu enchaîner. L'autre, c'est Justin Herbert. Moi, je voulais offrir à Justin Herbert des coachs à la hauteur de ses capacités. C'était pour inverser, et vous voyez ce que je veux dire. Wink, wink. J'aimerais bien que Sean McVay ait un quarterback à la hauteur de ses capacités, et j'aimerais bien que Justin Herbert ait un coach à la hauteur de ses capacités. Voilà. C'est évidemment infaisable pour l'instant, mais en tout cas, Justin Herbert. Le truc, c'est que Justin Herbert, pour le coup, là, ça va se faire. C'est-à-dire que, a priori, Anthony va prendre la porte, et faut espérer vraiment. Moi, c'est vraiment mon souhait de Noël pour Herbert, c'est que là, minute 1, au moment où on se parle à Noël, ses dirigeants soient déjà en train de regarder quel est le meilleur coach possible pour entourer ce joueur, cette équipe. Parce que pour le coup, Herbert, il y a déjà du matos, il y a des bons receveurs, il y a du potentiel. Franchement, ouais, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'ils vont trouver de quoi entourer Justin Herbert, qui a un super, super quarterback, qui a fait un très bon match encore jeudi, même si son équipe gagne d'ailleurs. Il va chercher la victoire en prolongation. Voilà, c'est vraiment un truc sympa. Jim Harbaugh aux Chargers, ouais, je sais pas, Flo. Je sais pas. C'est vrai que c'est un ancien quarterback. C'est vrai qu'il avait fait du bon boulot avec Alex Smith. Pourquoi pas? C'est un mec qui peut inspirer une reconstruction. Moi, j'aimais bien. Donc voilà, les Rammers, ouais, ça fait un bon mélange. Et le dernier, alors c'est pour les supporters des Bears, parce que je suis tombé sur une liste quand même dinguissime, c'est la liste des quarterbacks titulaires de Chicago. La liste est dingue, je pense que c'est la pire franchise de l'histoire en termes de niveau moyen des quarterbacks titulaires. Et pourtant, c'est une franchise historique. Hein. À Chicago, mon cadeau de Noël, ce serait un quarterback de qualité titulaire pour plusieurs années. Parce que vraiment, par exemple pour rire, je suis tombé sur un top 5 des quarterbacks. Alors c'est un site qui s'appelle Clutch Point, j'avais trouvé ça un peu à l'arrache. J'ai un top 5 des quarterbacks des Bears. Alors visiblement, je n'accéderai d'ailleurs jamais à ce site parce qu'il me demande 25 trucs de cookies et machin. Mais voilà, leur quarterback numéro 1 aux Bears, c'est Sid Luckman, 1939-1950. Derrière, on retrouve l'inoubliable Jay Cutler en deuxième position. Donc ton meilleur quarterback de l'ère moderne, c'est Jay Cutler. Derrière, il y a du Jim Harbaugh, Jim McMahon qui gagne le Super Bowl. Bon, très bien. Et Eric Kramer, 94-98, l'inoubliable. Non, je rigole parce que je m'en rappelle même pas. Voilà. Les quarterbacks des Bears, depuis, on remonte. Alors, on fait Armour, hein, depuis maintenant. Mitchell Trubisky, Nick Foles, Chase Daniels, Mike Glennon, Brian Hoyer, Jay Cutler, Matt Barkley, Jimmy Clausen, Jay Cutler pendant des années avec des matchs pour Josh McCown, Jason Campbell, Caleb Haney, Josh McCown, Todd Collins, Kyle Orton, Rex Grossman, Brian Greasy, Chad Hutchinson en 2004, ils alignent Craig Kenzel, Chad Hutchinson, Jonathan Quinn, Rex Grossman, 2003 Cordell Stewart, Chris Chandler, 2002 Jim Miller, Henry Burris, Shane Matthews en 2001, un dénommé Cade McCown en 2000. C'est du délire, c'est du délire. Je pense que on rigolait souvent de la liste des quarterbacks des Browns, celle des Bears, elle est quand même pas loin d'être aussi abominable. Franchement, j'ai adoré remonter cette liste parce que tous ces mecs-là que j'ai listés, ils ont débuté donc depuis 2000. Ça veut dire qu'ils ont tous débuté depuis que Tom Brady avait pris le poste de quarterback titulaire des Patriots, quoi. Voilà, grosso modo. Donc, ouais, ils ont eu Walter Payton. Vous voyez, on voit à quoi ça sert un coureur de qualité. Ça sert à être gâché par des quarterbacks médiocres. Donc, voilà, c'est le truc. Parce que, franchement, le pauvre. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite à aucun quarterback, quelqu'un parler d'Arnold en rigolant, j'espère, Ruyosa. Surtout pas un quarterback qui veut se relancer. Personne ne se relance en tant que quarterback à Chicago. Il faut qu'un jour, ils aient du bol à la draft, quoi. Mais je sais pas. Ils sont nuls pour évaluer les talents, visiblement. Ça doit être ça. Mais oui, Greg Grossman va au Super Bowl en 2006 sur le dos d'une énormissime défense. Voilà. Mais voilà, c'est... oui, et Devin Hester, les équipes spéciales, Vincent a raison. Les équipes spéciales étaient quand même incroyables. Donc oui, Chicago, c'est la défense. En effet, Thomas a raison. Mais il faut que ce soit les défenses les plus exceptionnelles de l'histoire pour qu'ils gagnent un titre. Parce que sinon, avec les quarterbacks qu'ils ont, ils n'en gagneront pas, quoi. Donc moi, encore une fois, ils sont réputés pour leur défense. Pittsburgh, ils sont réputés pour leur défense aussi. Mais ils ont Ben Roethlisberger pour lancer le ballon à Anthony Holmes dans la end zone pour gagner le Super Bowl en 2009. Donc voilà, c'est bien hein, les grosses défenses. Mais ça te fait gagner un Super Bowl tous les 85 et c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment. Je souhaite un bon Super Bowl, un bon quarterback aux Bears, sincèrement. Juste qu'ils voient ce que ça fait, quoi. On passe au pronos du jour. Je les ai devant les yeux. Cowboys 49ers, ça doit être le seul match sans enjeu à 19h. Je crois que j'ai pris les Niners. Je ne suis plus sûr. Bon, je suis pas sûr que ce soit mes pronostics de l'émission, mais en tout cas voilà. Washington contre on va pas refaire le débat, je vous vois la défense gagne les titres, etc. Oui, défense gagne les titres, mais l'attaque finit de temps en temps, parce que la défense des Patriots contre les Rams, Jérémy, tu en parles en effet, mais de mémoire, c'est quand même l'attaque qui va chercher le drive de la victoire. Donc il en faut quand même aussi un petit peu. Évidemment, on le sait, c'est toujours un équilibre, mais on ne gagne pas qu'avec juste une défense. tout cas très rarement. Les Bears, justement, peuvent en témoigner. C'est Peyton Manning qui gagne en phase 2 cette année-là. Excusez-moi pour l'aparté, je disais donc. Cowboys 49ers, donc 49ers pour moi. Washington Seahawks, la football team en course pour le titre dans la division NFC Est. Mais a priori, ce sera Seattle pour moi. Vikings-Bears, on en parlait, les deux équipes qui luttent un petit peu pour la dernière place en playoff, mais c'est quand même très difficile. Les Vikings, parce que justement, ils ont des playmakers en attaque, figurez-vous. Dolphins-Patriots, c'est à 19h, hein, tout ça. Dolphins-Patriots, les Dolphins, évidemment, c'est plus complet. Il y a très très peu d'attaques à New England, c'est compliqué en ce moment. Falcons-Buccaneers, les Buccaneers sont évidemment ultra favoris. Attention aux Falcons, qui aiment bien embêter tout le monde dans ces moments-là. Titans-Lions, Matt Stafford va essayer de jouer malgré une blessure, il a un courage incroyable lui, il mérite vraiment mieux, j'aurais dû lui souhaiter une meilleure équipe parce qu'il a souffert toute sa carrière, on va dire Titans pour moi de ce côté-là. Les Colts jouent les Texans, il n'y a plus grand-chose du côté de Houston et c'est très très complet du côté d'Indianapolis, course au playoff, donc Indianapolis tout droit. Baltimore-Ravens contre les Jaguars, les Baltimore Ravens tout droit aussi vers la course au playoff, qui joue une équipe face à laquelle ils sont largement favori. Coup d'envoi à 22h, 3 matchs cette semaine. Cardinals, 7 victoires, 6 défaites. Et les Eagles qui luttent aussi pour la division NFCS, même s'ils sont plus en retrait. On va dire les Cardinals, c'est quand même beaucoup plus complet. Les Rams ensuite affrontent les Jets. Grosse opposition déséquilibrée de la soirée, à mon avis. Sam Darnold va devoir se coltiner à Aaron Donald et compagnie. A priori, ça fait une 14e défaite pour les Jets, donc ce sera les Rams pour moi. Le choc de la soirée, les Saints contre les Chiefs, c'est à 22h, encore une fois, je le répète, 22h25 celui-là. C'est à New Orleans, sans public, ou très peu, je ne sais plus, mais c'est très très bas la jauge, je crois même qu'il n'y a plus personne. Du côté de New Orleans, je pense que les Chiefs ont quand même les armes pour déborder, même si Drew Brees revient. Par contre, Michael Thomas, lui, s'en va. Il est sur la liste des blessés pour les 3 prochains matchs. On va dire Kansas City. Dans la nuit, New York Giants, Cleveland Browns, les Browns, donc, pour moi, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu le dernier. Donc, on va dire les Browns de mon côté. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, une opposition entre les Bengals et les Steelers, avec des Steelers ultra, ultra favoris, puisque c'est Ryan Lindley qui sera titulaire quarterback pour Cincinnati suite au forfait de Brandon Allen. Voilà donc pour les pronostics du jour. Nous avons encore 6 petites minutes de questions, j'allais le dire, et éventuellement, alors j'ai pas beaucoup à bouffer ni à boire. C'est un petit peu problématique. Alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez une surprise ou est-ce que, parce que je vais vous dire, alors j'ai pas bu de bière cette semaine. Parce que c'est les fêtes, j'ai pas le temps de faire de sport, alors j'essaie de pas trop boire d'alcool et tout ça et tout ça. J'ai pas choisi, alors je vais dire, Degan, j'ai pas choisi mon match pour mon anniv. J'ai pris le dernier qui restait à 19h, donc moi je suis sur Ravens Jaguars. Voilà. Alors j'ai pas reçu de bière, non. Alors, et vous savez quoi? Je vais être totalement transparent avec vous, je vais vous montrer quelle a été mon alimentation du jour. Je vais faire comme au début de l'émission. Je vais quitter l'écran pendant une seconde, je vais aller chercher mon frigo, bougez pas. Je vais essayer de parler fort pour que vous ayez un fond sonore en même temps que je cherche, et je vais ramener, hop, ce que j'ai mangé. Ah, je vais même vous ramener ce que j'ai bu. Allez, je vais même vous ramener ce que j'ai bu. Cette semaine, j'ai essayé un truc que je suis censé pas aimer non plus, parce que je suis plus vin blanc. Mais j'ai essayé le vin rouge, et un vin rouge, bah, je suis allé chez mon caviste, et donc j'ai goûté ça, et c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est plutôt pas mal avec le repas du midi, hein. Vous voyez, je suis, voilà, hein, j'ai pas tout bu, et c'est sur plusieurs jours. Donc je l'ai, un petit Saint-Émilion cheval noir, voilà, j'ai goûté ça, et c'est plutôt pas mal. Et alors, vous m'aviez dit que vous vouliez de la bouffe. Vous m'aviez dit que vous vouliez de la bouffe. Eh bien, écoutez, voilà mon gâteau d'anniversaire. il est de ce midi. Il est de ce midi. Et donc, voilà. Alors, c'est un cheesecake, mais alors, il est monstrueux. Je vous le dis. Voilà, regardez. Donc, j'essaie de faire une macro cheesecake. Je ne sais pas si ça...
Je sais pas si la macro est propre ou pas, mais c'est un cheesecake qui est, mais alors, délicieux, 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 délicieux. Un cheesecake fruits rouges incroyable. Si vous êtes en Normandie et que vous voulez le nom de l'artisan, je vous le conseille. Il sent tellement bon. Il est tellement bon avec le café après le repas du midi. Oh, incroyable. Incroyable. Donc voilà, le cheesecake et le Santé Mignon Cheval Noir, c'était mon programme du jour pour mes 35 balais. Donc voilà, ça a été, voilà, donc je vous dis, le gâteau, livraison incroyable. Je suis content de Miss Normandie. J'ai pas regardé, mais j'ai entendu parler de ça ce matin. Bière, donc désolé Jean-Baptiste, je n'ai pas de bière ce week-end. Parce que vraiment, j'en ai pas bu de la semaine en fait. Donc, je vais en garder. Macro ASMR cheesecake. Ah oui, tu veux que je fasse de la ASMR cheesecake, Camille? Oui, non, je vous dis, j'ai pas fêté la victoire de Miss Normandie. Bon, cigare, non, ça je teste pas. Alors, on peut gagner la fin du gâteau? Non, parce que ça va être. Je vais sûrement le boulotter en regardant le match là un petit peu. Hein. Merci. Alors, il y a Yannick qui disait joyeux anniversaire de la part de Sam. Eh bien, bonjour Sam et merci beaucoup pour le souhait d'anniversaire. Envoie un bout. Ah non, désolé. Alors, là, shot. Non, alors pour vous dire, même plus de champagne pour un anniversaire. Non, j'avoue que j'ai pas ouvert de champ pour l'anniversaire. Après, bah, vous savez, les conditions sont un peu particulières. Je l'ai fêté, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, j'ai pas. Pour le nom de l'artisan, il faut que je le trouve, en fait, parce que je l'ai pas, on me l'a dit à l'oral, mais il faut que je le trouve. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais mettre un lien sur Twitter ou un truc comme ça. Je pense que ça peut se trouver. Et alors, il y a quelqu'un qui a dit, j'étais étonné, je pensais pas entendre, j'ai testé le vin rouge. Alors, je vous jure, c'est comme la bière il y a 6 mois, j'étais persuadé de pas du tout aimer le vin rouge. Donc, je m'y mets tout doucement. C'est Flo qui nous avait envoyé une bouteille et j'avais goûté au Super Bowl. Et en effet, c'était pas mal. Et du coup, là, j'ai testé ça et c'est plutôt pas mal. Donc, faut s'y faire. C'est moins naturel pour moi que le vin blanc, mais je commence à apprendre à apprécier. Et avec certains repas, en fait, j'apprends qu'en effet, ça se marie bien. Donc voilà, j'essaye. Vous voyez, pour rajeunir, eh ben, je fais comme dit Benoît, j'oublie mes croyances et je teste, je teste, je teste. Et voilà, donc je teste tout. Je suis en manque de Châteauneuf-du-Pape, Flo, je sais plus. Je sais plus, c'était oui, c'est celui qu'on avait eu au Super Bowl, c'est ça, mais c'était pas mal ça. Donc voilà, mais j'ai encore les blancs, hein, Flo. J'ai pas encore goûté le Puisac, je sais plus comment on dit. Bref. Bon, mais en tout cas, merci à tous. Il est 18h59. Oui, Quentin a raison, le Palais Duc. C'est vrai qu'il faut aussi que je m'y mette. En tout cas, merci à tous. Il est 19h. Merci. Pouilly-Fuissé, c'est ça. Il a raison, Ruizard. Je ne les ai pas encore goûtés. Merci à tous, en tout cas. Il est 19h. Merci à tous pour les gentils messages pour mon anniversaire. Très bonne soirée. Bon match NFL. Amusez-vous bien. On se retrouve mardi pour le débrief. Jeudi pour la preview. Samedi pour la draft. Ça fait beaucoup d'émissions. Et dimanche prochain pour un prochain fauteuil. Très bonne soirée à tous. Moi, je vais aller manger mon gâteau. Ciao, ciao!